Retrouvez vite La France Bouge avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Europe 1, La France Bouge, Carole Ferry, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans La France Bouge, l'émission résolument positive qui met en avant celles et ceux qui font bouger la France, celles et ceux qui osent créer leur entreprise, la faire grandir. Nous allons tenter pendant une heure de voir le verre à moitié plein dans ce contexte parfois difficile. À mes côtés, Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Carole Ferry, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous avez remarqué, le soleil commence à se coucher plus tard, les beaux jours ne vont pas tarder à arriver, la douceur sera là sur toute la France ce week-end. C'est donc quoi ? Eh bien, c'est le moment d'aménager nos extérieurs, surtout pour ceux qui sont en télétravail ou pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin ou un balcon. Et nous, pour en parler, on a tout simplement trouvé la plus belle des pépites françaises en la matière. C'est le leader Fairmob.
Et qu'est-ce qu'on adore faire quand on a la chance d'avoir un jardin ? Des barbecues ou des planchas ? Et oui, c'est espagnol les planchas au départ, mais nous allons vous présenter la version made in France de la plancha avec l'entreprise Vericook.
Alors vous dites, ils sont bien gentils à La France Bouge, moi j'ai pas de jardin, je ne peux rien faire. Et ben c'est pas grave, on vous emmène découvrir aujourd'hui l'un des plus beaux jardins de France. Alors c'est pas forcément le plus connu, ça s'appelle le domaine de Courson, c'est en région parisienne et ce sera notre saga du jour.
Et puis les trophées Europe 1 La France Bouge, chaque jour un projet défendu par celle ou celui qui en a eu l'idée. Aujourd'hui, Éditez-nous, une plateforme qui met en relation le bon écrivain avec le bon éditeur grâce à des mots-clés. Ce sera vers 13h30.
Et puis enfin, demain, un emploi. Comme chaque vendredi, nous serons avec une entreprise qui cherche à recruter. C'est ce que l'on fait chaque jour, presque à La France Bouge. Aujourd'hui, Luco, spécialiste de l'assurance habitation. Il recherche une centaine de CDI.
Bienvenue dans La France Bouge. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France Bouge sur Europe 1.
Et oui, cette France, elle bouge. Et nous le disons souvent, notre objectif, c'est d'être positif dans cette émission. Et aujourd'hui, on est sûr d'y arriver. On vous propose de préparer les beaux jours, de penser à l'aménagement des jardins et des balcons. Bref, allez, on va prendre l'air, Carole ?
Avec plaisir, avec Bernard Rébier, bonjour.
Bonjour Carole.
Vous êtes le PDG de Fairmob, l'un des leaders français du mobilier de jardin. Une entreprise de 360 salariés. Fairmob, c'est la contraction de fer, le matériau, et de mobilier. Vous me dites, vous m'arrêtez si je me trompe. Alors, on sait que depuis le confinement et avec le télétravail notamment, les Français prennent de plus en plus soin de leur intérieur mais aussi de leur extérieur. Pour ceux qui ont la chance bien sûr d'en avoir un, est-ce que c'est le cas ? Est-ce que vous le ressentez dans vos ventes ?
Oui, effectivement. Après l'immense inquiétude qu'ont partagé tous les chefs d'entreprise l'année dernière, le 15 mars, il y a eu dans notre secteur un effet rattrapage. Tant pour jardin, décoration, maison. Ça se passe très correctement pour les entreprises de notre secteur.
Et d'ailleurs, quelles sont les tendances ? Qu'est-ce qui marche en ce moment quand on dirige une entreprise comme Fairmob ? Qu'est-ce que les gens viennent acheter ?
Alors, il faut distinguer la clientèle française et la clientèle étrangère.
Allez, on commence par la France alors.
Alors, en France, en fait, le jardin est devenu la cinquième pièce de la maison. J'ai utilisé cette expression il y a une quinzaine d'années. C'est aujourd'hui une pièce comme les autres. Alors le jardin, je rassure ceux qui n'ont pas de jardin, il y a aussi les balcons. Et puis on peut même, la frontière entre le dedans et le dehors, elle a presque tendance à disparaître avec les loggias, les vérandas, mais on peut même avoir de l'esprit jardin à l'intérieur. On ose aujourd'hui ce genre de choses, les plantes vertes aussi qui embellissent les maisons.
Et ça se répercute comment, du coup, sur vos ventes ? Qu'est-ce que les gens viennent acheter principalement chez vous ?
Alors, nous avons la chance d'avoir pas mal d'éclectisme qui correspondent à la configuration des familles. On peut avoir les grandes tables à rallonge pour les grandes tablées. Bon, on est un peu gêné en ce moment, mais je suis sûr que ça va revenir. Et puis, on peut avoir aussi, même dans les jardins, des coins plus intimes, y compris des coins pour travailler seul, lire seul, un peu adapté aux circonstances. Et puis nous sommes lancés, au-delà des tables et chaises, des bains de soleil, dans des accessoires qui, en termes de tissu, etc., peuvent rester à l'extérieur. Et puis, on est arrivé aussi à la lumière, parce que la lumière,
votre nouvelle activité, la lumière.
Voilà, assez récent.
Ça représente quelle part aujourd'hui de votre activité ?
Je dirais qu'aujourd'hui, c'est entre 10 et 15%, parce que c'est récent.
Mais ça marche bien.
ça marche très bien parce qu'il y a une logique d'être cohérent entre l'aménagement de mobilier et puis la lumière, d'être cohérent dans les couleurs.
On avait reçu à cette même place, il y a de cela maintenant quelques mois, le patron des piscines des Joyaux qui nous disait « Je suis étonné moi-même, mais je n'ai jamais vendu autant de piscines de ma vie qu'en 2020 et je suis étonné par l'accélération. » Est-ce que vous aussi, quand vous dites là, le 15 mars, on a eu peur, mais là, aujourd'hui, au mois de février 2021, quand vous retournez un peu, vous dites « Bon sang, si on avait su qu'on travaillerait aussi bien sur cette année 2020, j'aurais signé tout de suite. »
Ah oui, enfin aussi bien. On était sur des tendances très bonnes avant le 15 mars.
Mais est-ce que ça s'est encore accéléré ?
Ça s'est accéléré et ça a permis le rattrapage du creux des mois de mars et d'avril. Donc on a terminé l'année à peu près en flat, très légèrement positif, mais les perspectives de 2021 sont très bonnes. Très bonne.
Alors on va revenir un peu sur l'histoire de Fermob. Au départ, votre siège social de Toissé, dans l'Ain, est une ferronnerie qui s'occupe du ferrage des chevaux. Le fils de l'époque décide de faire des meubles. Et quand arrive la mode du plastique, et ben c'est vous qui décidez de racheter. On est en 1989. Mais c'est un sacré pari à l'époque, non ?
Voilà, alors c'est vrai que le plastique a un peu tué l'entreprise qui faisait du mobilier en métal. Je reprends cette entreprise minuscule qui est un atelier élargi, 10 personnes. Je crois au métal. Je crois en cette phrase.
Pourquoi
de
vous y croyez au métal à l'époque ?
Parce que, vous savez, on a tous appris à l'école, ça existait il y a 3000 ans. Vous vous souvenez des cours de CP, pas de CP, de CM1 bien, là, ou, de, ou de 6e, l'âge du fer. Moi, je me suis dit, un matériau qui existait il y a 3000 ans, il a encore de l'avenir. Hein, je ne demande pas 3000 ans, je demande juste quelques dizaines d'années. Et puis, il y a la fabuleuse phrase de Gustave Eiffel, le fer, matière à idées au pluriel. Ce que vous imaginez dans votre tête, c'est un matériau avec 10 mm d'épaisseur, on peut faire des formes et tout, etc. Et puis la fabuleuse révolution de l'acier. C'est un matériau discret, mais qui a connu une grande révolution sur ses caractéristiques techniques. Et puis c'est un matériau qui était en avance sur son temps, parce qu'il est recyclable, effectivement recyclé.
Oui, c'est ce qui en fait au final aujourd'hui un produit dans l'air du temps. À l'époque, vous preniez un risque. Et puis aujourd'hui, vous êtes complètement au goût du jour. Parce que le plastique, c'est moins bien recyclé, alors que vous, vos produits, c'est une des seules filières, je crois, un des seuls matériaux qui a une filière organisée au niveau mondial, c'est ça ?
Oh, quasiment. Dans tous les pays du monde, on recycle l'acier. L'acier recyclé représente 96% de la consommation et les métaux sont valorisés quasiment à 100% dans le monde entier.
Mais vous n'auriez pas du tout pensé à l'époque ?
Ah, alors, un petit peu, parce que j'avais quelques convictions personnelles. J'ai formalisé les valeurs de l'entreprise il y a près de 30 ans. Et dans celle-là, il y avait le respect de l'environnement. Ce n'était pas la mode à l'époque.
Il y a 30 ans.
Il y a près de 30 ans.
Ce qui est aussi très intéressant, on parlait donc des meubles de jardin pour lesquels vous êtes connu et là mondialement connu, puisqu'on pourrait citer par exemple les chaises de Times Square pour ceux qui sont allés à New York. Ouais. On s'assoit dans du Made in France quand on est à Times Square, on ne le sait pas toujours. Et c'est ça qui est aussi important, c'est-à-dire que vous produisez la quasi-totalité de vos meubles. Alors ce n'est pas vrai pour les luminaires, mais pour les meubles, vous les produisez encore aujourd'hui dans vos usines ?
Voilà, tout à fait. Ça aussi, c'était une conviction au départ, qu'on pouvait être industriel dans un métier traditionnel en France. Bon, la France, c'est mes racines. La région de Lyon, on est implanté. L'Ain, c'est aussi mes racines. Et moi, je suis convaincu, pour avoir beaucoup voyagé, qu'en France, en productivité, on est dans les meilleurs du monde. On n'a pas à rougir par rapport aux Japonais, Allemands, etc. et tout. En créativité, on est les meilleurs du monde parce qu'on a une histoire qui remonte à plusieurs siècles. Et c'est vrai qu'au début, ça m'a valu des sarcasmes. On a dit, oui...
Au début, on vous a dit, vous êtes fou ?
Oui. On m'a dit une industrie ancienne et tout, etc. Et voilà, donc je n'ai pas de regrets, puisque ça a plutôt bien marché.
Ce qui fait la réputation de vos chaises aujourd'hui, c'est vraiment leur solidité. Comment vous faites pour vraiment tester tout ça, pour veiller à cette solidité ?
En fait, moi, j'aime les produits, j'aime ce métier de fabricant. Et dans notre métier, fabriquer, on a 30 ans d'expérience, donc on a fait plein de bêtises, mais on a appris de nos bêtises. Donc c'est vrai que nos produits se sont améliorés au fil des années. Alors derrière, ils sont testés, mais nos machines de test, c'est incroyable. On teste 150 000 fois à 80 kg, à 100 kg, à 150 kg.
Mais c'est vrai que ce n'est pas écrit, semble-t-il, sur la garantie. Mais si au bout de 10 ans, j'ai un pied de chaise qui est cassé, je reviens dans une de vos boutiques et vous le changez gratuitement.
Ouais, écoutez, franchement...
Faites attention là, il y a des millions d'auditeurs.
Non, mais franchement, une soudure qui casse... Alors oui, il y a les garanties légales, les garanties décennales et tout. Mais nous, on estime qu'une soudure qui casse, c'est un accident. Donc,
parce que vous pensez qu'ils durent combien de temps, vos meubles ?
enfin, éternellement. C'est des dizaines d'années, mais j'ai encore eu tout à l'heure un témoignage. Enfin, ces témoignages nous font toujours plaisir. Voilà, il faudra qu'on se mette à les repeindre, parce que sinon on se lasse.
Bernard Révier, vous êtes donc le PDG de Fermob, et nous vous gardons avec grand plaisir jusqu'à 14h. Vous êtes notre témoin du jour.
Europe 1, la France bouge. Carole Ferry, Emmanuel Duteil.
Et bien sûr qu'elle bouge, cette France, et on est très heureux, hein, chaque jour, de la mettre à l'honneur en direct sur Europe 1, entre 13h et 14h. Et aujourd'hui, on prend un bon bol d'air. Il paraît qu'il va faire très très beau en plus sur toute la France ce week-end. Donc c'est le bon moment. On parle mobilier, de terrasse, de balcon, de jardin, avec notre grand témoin du jour, Bernard Révier, qui est le patron de la marque Fermob.
Et avec Alexandre Carr, qui vient de nous rejoindre dans ce studio. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez commencé en vendant des planchas achetés en Espagne. Vous les vendiez à ce là sur les marchés. Aujourd'hui, vous avez trois marques. Les planchas haut de gamme, Vericook, l'entrée de gamme Viva Plancha et des barbecues type japonais, Coco.
Voilà.
Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre la plancha et le barbecue ?
Bien sûr, avec plaisir. Merci pour votre invitation. La plancha, c'est un mode de cuisson à la saisie. On cuit sur une plaque chaude. Les graisses ne tombent pas sur les flammes et il n'y a pas de fumée. Le barbecue, nous, on est plutôt fervent du barbecue charbon. C'est un barbecue sur la braise et on vient vraiment cuire des viandes, des poissons, des légumes. Voilà.
Vous profitez, vous aussi, en ce moment, à plein, de notre envie de jardin, de notre envie d'extérieur.
Oui, c'est vrai qu'on est dans une tendance de fond qui est sur l'ouverture à l'extérieur. C'est vrai que la période actuelle, eh bien, profite, donne envie de, à la fois, se rassembler un peu plus en famille, recentrer sur le...
Pas trop nombreuse, la famille.
Voilà, pas trop nombreuse, mais quand même un peu, se recentrer sur le foyer, sur sa maison, d'investir un petit peu eh bien, dans son aménagement intérieur et extérieur. Voilà, donc c'est...
Qu'est-ce qui fonctionne le mieux chez vous ? La plancha, on n'en parlait pas tant que ça, là on a l'impression que d'un seul coup, il y a un boom de la plancha, pourquoi ?
Alors la plancha, à l'origine, c'est espagnol. Moi j'ai démarré, j'avais 18 ans, j'ai importé des planchas, c'était un job d'été. Mon père voulait que j'aille à l'usine tous les étés pour bosser, moi j'avais envie d'entreprendre, j'avais envie de créer.
À 18 ans ?
À 18 ans, même un petit peu avant.
Ah oui ?
Ce que je savais faire, c'était créer des sites. Voilà, ça, c'était ma petite façon à moi de mener des projets. Et l'idée de la plancha m'est venue. J'ai importé 3-4 planchas d'Espagne. Je les ai vendues aux amis de mes parents, bienveillants et sympathiques, qui me les ont achetées. Je suis retourné en Espagne, j'en ai acheté le double, etc. Et ainsi de suite. Et j'ai démarré.
Que vous vendiez, on est d'accord sur les marchés.
Ah
hein.
Oui, les marchés, le porte-à-porte, les flyers.
Et après, vous vous êtes dit, tiens, je vais faire les miens.
Voilà. Et puis mon rêve, au fond de moi, c'était de créer, d'innover, d'apporter de la couleur dans le jardin. Les planchas, c'était un marché très professionnel, avec des modèles un petit peu ternes. L'idée, c'était vraiment d'apporter des belles couleurs, d'égayer son extérieur, voilà, d'être...
Ils sont fabriqués où, alors, tous ces produits ? Parce que là, on a parlé tout à l'heure du Made in France. Ils sont fabriqués où ?
Eh oui. Alors, moi, à l'origine, je suis lyonnais. La manière la plus simple pour démarrer son entreprise, eh bien, c'était d'aller voir des entreprises industrielles françaises à côté de chez moi et qui m'ont permis de m'accompagner.
C'est où à côté de chez vous ?
Donc c'est la région lyonnaise, Corbas, oui. Tarare, voilà. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on entreprend, quand on est jeune, il y a beaucoup de barrières. Quand on arrive chez un industriel, il faut vendre son projet.
Mais comment on le convainc ? Parce que là, vous avez une vingtaine d'années, j'imagine, quand
voilà,
ça se passe.
Exactement.
Vous n'y connaissez pas grand-chose, si ce n'est d'avoir importé 3-4 planchas d'Espagne.
Et voilà.
Et on arrive comment pour convaincre ? Parce que c'est extraordinaire, votre histoire.
Des convictions, du sourire, de l'enthousiasme, des idées, de l'envie.
Et vous dites voilà. Quoi ? Seb, c'est ringard, c'est moi le futur Seb ?
Non, on y va avec beaucoup d'humilité, mais beaucoup d'envie. Et puis on essaye de faire en sorte de rassembler et que les gens adhèrent à votre projet.
Alors justement, tiens, parmi les projets, vous parliez, et Carole le disait, les barbecues type japonais Coco. Je pense qu'on a perdu pas mal de monde en disant ça, parce que moi je ne sais pas ce que c'est. Je suis désolé, hein, je ne sais pas ce que c'est.
Pourquoi vous avez choisi type japonais ? Vous avez dit, de toute façon, le reste c'est phagocyté par Weber, non ?
Alors écoutez, moi, depuis que j'ai créé l'entreprise, la chose essentielle pour moi, c'est le client. Voilà, c'est d'être au contact de mes utilisateurs. Et c'est... Un beau jour, un de mes clients qui m'appelle, le bureau, je prends et il me dit « Regardez ce barbecue ancestral japonais, c'est exceptionnel, c'est un barbecue tout en céramique. » Je me suis intéressé à cette idée, à ce projet. On a créé avec l'équipe Berry Cook, un nouveau design, une nouvelle manière de repenser, de revisiter ce produit.
Alors, qu'est-ce qu'il a de différent du barbecue traditionnel ?
Alors là, c'est un œuf en céramique, très épais, qui concentre très fortement la chaleur et il n'y a pas de déperdition de chaleur. Mmh. On cuit à plus de 400-450 degrés. C'est une cuisson extraordinaire et on fume les aliments. C'est très apprécié des grands chefs.
Bernard Rébier, je rappelle que vous êtes le PDG de Fermob, l'une de nos plus belles pépites dans ce qui est le mobilier de jardin. Est-ce que vous pourriez aller aussi vers tout ce qui peut être indispensable pour ça, le support par exemple pour un barbecue, l'encadrement de la plancha, la petite console de jardin sur laquelle on placerait la plancha. Tout ce développement, c'est important.
Alors, effectivement, on a quelques consoles de jardin qui peuvent servir de support.
Mais je l'ai regardé, il n'y a pas grand-chose sur l'univers du barbecue, de la cuisson, ce genre de choses.
Il n'y a pas grand-chose, mais bon, la pièce essentielle, en l'occurrence, reste le barbecue ou la plancha. Mmh. C'est un métier qui, sur le plan de la technique, est différent d'une autre. Et donc, moi, j'aime bien rester centré sur mon métier. Alors, vous me direz que le luminaire, j'ai changé, mais j'ai changé avec une logique de fabricant. Je pourrais peut-être vous expliquer comment. C'est adjoint des compétences. Mais voilà, donc c'est vrai que...
En tout cas, ce qui va vous parler, c'est sur la couleur. Parce que s'il y a bien un point qui vous rassemble tous les deux, c'est d'égayer nos jardins.
Voilà, alors, effectivement, vous savez qu'une des valeurs de Fermob, c'est la joie de vivre. Pour illustrer cette joie de vivre, nous avons inventé la couleur au jardin. Alors, je dis « nous avons inventé », parce que sur le plan de la technologie, des couleurs qui tiennent dehors, ce n'était pas évident. Et Alexandre, effectivement, a des gammes en couleurs. On s'était d'ailleurs, il était venu me voir il y a un peu au moment de son démarrage.
Exactement.
Moi, je suis très heureux que cette joie de vivre à travers les technologies de couleurs au jardin se répandent. Hein, ça nous rend tous plus joyeux et souriants.
Ah oui, et c'est vrai que vos planchas, les couleurs, c'est incroyable. Les barbecues aussi. Hein,
oui,
on sent que ça égaye vraiment le barbecue.
Et... On les trouve principalement en ligne.
En ligne, seulement.
Voilà,
ça.
Exactement. Mmh. C'est vraiment l'idée d'être au plus proche du client. Moi, quand j'ai créé l'entreprise il y a 10 ans, c'était du e-commerce. Je croyais beaucoup au e-commerce, au digital, à la force d'être au contact des utilisateurs.
Mais uniquement sur vos plateformes à vous ? Par exemple, vous êtes sur Mano Mano, ce genre
non,
de choses ?
Non, sur nos plateformes à nous,
d'accord,
en direct, des utilisateurs, offrir le meilleur prix, pas d'intermédiaire, un modèle simple qui permet aussi d'avoir du made in France sans exploser les prix. Mmh. Vraiment...
Alexandre Carr, merci beaucoup d'être venu. Vous êtes donc le président fondateur des planchas Berry Cook.
Merci à vous.
Et Bernard Rébier, le patron des meubles de jardin Fermob. On vous garde encore un petit peu avec nous. Vous êtes notre grand témoin. Vous êtes notre bol d'air jusqu'à 14h.
Europe 1, la France bouge. Carole Ferry. Emmanuel Duteil.
Et on est en direct avec vous jusqu'à 14h sur Europe 1 dans la France bouge et avec Bernard Rébier qui est le PDG des meubles de jardin Fermob. Alors, vous nous avez mis l'eau à la bouche là juste avant de s'arrêter sur les couleurs. Parce que du coup, je crois que vous avez un nuancier de 25 couleurs. J'adore les noms. Menthe glacée, citron givré, coquelicot. Qu'est-ce qui invente ces couleurs ? Parce que c'est des couleurs brevetées quasiment, hein. C'est des couleurs à vous ?
Alors, breveter, peut-on protéger des couleurs ?
C'est jamais évident,
il y a le bleu clin. Mais oui, c'est des couleurs originales que nous créons. On demande d'ailleurs à nos fournisseurs de nous garder une exclusivité pendant un certain temps. Bon, après, elles sont très inspirantes, mais je prends ça comme un compliment. Alors, on a acquis une belle expertise dans ce domaine. Au départ, il y a la peinture. Vous savez, on n'invente rien. Moi, quand mes équipes me disent « on allie la couleur rouille avec bleu », instantanément, j'ai le vase bleu de Picasso, ce tableau qui surgit, hein, des Matisse dans les couleurs. Donc, nos inspirations, c'est la vie, la nature, la peinture. Et puis derrière, c'est beaucoup de travail, parce que c'est très subtil. Citron givré, menthe glacée et le gris argile, pour que ces trois couleurs restent harmonieuses entre elles, il suffit mais d'un à rien.
La toute dernière, c'est vert opaline.
Oui.
Ça, c'est quand à un moment, vous dites, tiens, faudrait qu'on rajoute une couleur. Tiens, c'est toi qui vas t'en occuper ou c'est quelqu'un qui vous dit, tiens, j'en ai trouvé une. Là, je pense que pour cet été, ça va cartonner.
Non, c'est pas tellement ça. On réfléchit sur la composition de notre gamme et puis on se dit à un moment, bon, il faut peut-être amener quelque chose, par exemple, dans les camaïeux de vert. Ou en disant, en ce moment, on a un peu besoin davantage de douceur. Il nous faut une teinte douce. Et le problème, il faut que la teinte douce vert opaline, par exemple, puisse matcher avec un certain nombre d'autres coloris de notre gamme. Donc, il y a un travail d'ajustement qui n'est pas évident. Mais en permanence, on réfléchit sur le sujet. Au début, j'étais tout seul. Puis aujourd'hui, j'ai des gens dans l'entreprise autour de moi.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, vous avez fait un gros développement qui représente 10 à 15% de votre chiffre d'affaires aujourd'hui sur le luminaire. Pourquoi vous avez eu l'idée de partir là-dessus, puisque là, on est très loin de l'idée du fer, de l'aluminium, du métal?
Oui, on est loin du métal, mais ça m'a paru indispensable. Quand vous êtes dans votre jardin, vous mangez les barbecues et tout, c'était un peu trop technique pour nous. Vous parliez de Weber, on a eu Alexandre Carr à côté de nous, c'est un autre métier. Et puis dans la lumière, je me suis dit en termes d'ambiance, le soir pour éclairer, eh bien ça participe à l'ambiance, à la joie de vivre. Et j'avais trouvé que sur ce marché à l'extérieur, il n'y avait pas grand-chose de joyeux. C'était un peu trop conventionnel et on a voulu aborder ce sujet avec l'esprit Fairmob, c'est-à-dire à la fois l'exigence du fabricant, des produits qui tiennent la route, et puis l'esthétique, la valeur ajoutée du design.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est sans fil, c'est ça.
Alors,
on les
c'est
recharge,
sans fil,
les...
c'est autonome, on peut l'oublier dehors, il n'y a pas de souci.
C'est ce que je voulais vous demander, ça craint rien, même s'il pleut pendant la nuit, c'est pas grave?
Ah oui, mais pendant la nuit, c'est comme nos meubles, vous pouvez les laisser 365 jours dehors, la lampe, vous l'oubliez, pas de souci, elle a la norme, etc. et tout, voilà. Donc,
Alors là, je suis sûr qu'il y a certains de nos auditeurs qui sont en train de se dire, ils sont bien gentils à la France Bouge, mais ça coûte une fortune quand même, Fairmob. Vous êtes, comment on pourrait dire, du luxe assez accessible aujourd'hui et vous êtes à la mode. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop cher?
Alors, oui, le luxe accessible, ça me convient. Je revendique aussi le mot populaire. Vous voyez, cette lampe que j'ai dans les mains, cette nouvelle lampe.
Pour ceux qui nous suivraient sur Internet, sur europe1.fr, vous avez une sorte d'ampoule à la main qu'on peut balader, une sorte de lampe torche,
voilà,
on pourrait
et
dire.
Qui est à la fois qu'on une lampe de table, etc. Bon, 59 euros en prix public. Nos chaises pliantes, celles de Times Square, donc qui supportent les Américains avec...
C'est jusqu'à 300 kilos, c'est ça, les chaises?
Le test, c'est 300 kilos. Ouais. J'ai pas dit que les Américains faisaient 300
non,
kilos.
Non, je l'ai pas dit non plus.
Voilà.
Vos chaises peuvent supporter jusqu'à 300 kilos.
Voilà. Bon, bah, c'est une chaise, c'est 60 euros. 60 euros.
Alors, oui, mais vous avez des tables, c'est jusqu'à 500.
Et on va dans les sièges jusqu'à 250 ou 300 euros. On a une table magnifique, 6 à 8 personnes, la table Belleville. À 600 euros.
Non, mais c'est vrai que vous êtes cher. Surtout c'est... comparé, parce que la plupart des gens, ils achètent leur mobilier de jardin dans les magasins de bricolage, en grande surface, qui sont vos vrais concurrents, où là, les prix sont 3, 4, 5 fois moins chers, bien souvent.
Sur une chaise, peut-être
mais,
pas. Mais...
Vous savez, réfléchissez aussi au prix d'une paire de chaussures. Est-ce qu'une chaise sur laquelle vous allez passer 5 ans, 10 ans, 20 ans ou 30 ans de votre vie, ça ne vaut pas un peu un investissement? On est en fait dans la séduction du produit, mais aussi on est dans l'investissement. Parce que vous pouvez les garder très longtemps. Et moi, je revendique la longévité. Et on en revient à un pacte environnemental. C'est un de mes combats. Un produit qui dure, c'est un produit vertueux pour la planète.
Et ça, c'est un point important pour vous, effectivement.
Vous avez d'autres idées pour l'avenir? Il y a eu le luminaire, après les meubles. Maintenant, vous pensez à d'autres choses?
Je dirais, on a toujours des idées, parce que comme on multiplie on augmente notre chiffre régulièrement, il y a des textiles d'extérieur, avec des gammes de coussins ou des plaids qu'on peut oublier dehors. Alors, c'est vrai qu'on s'amuse en ce moment, puisque nos lampes que vous voyez là, elles sont connectées. Je peux aussi, connexion Bluetooth, les commander, une application Fairmob, etc. Et on se demande si on ne peut pas aller plus loin en connectant nos chaises. On a quelques idées dans ce domaine.
Mais ça servira à quoi de connecter une chaise?
Alors, on ne sait pas trop pour le moment.
Mais
ça intéresse, par exemple, des gestionnaires de parcs dans lesquels on a nos chaises. Les équipes de Times Square, par exemple, ça peut les intéresser.
Citer le jardin du Luxembourg à Paris, la place de la République, tout ça, c'est du Fairmob.
Ça peut les intéresser d'avoir une idée des mouvements des chaises, par exemple. Mais en tout cas, on se lance là-dedans. Et puis, vous savez, des fois, il faut partir dans une direction.
Pour éviter qu'elles se fassent voler, effectivement, dans un premier temps, au moins.
C'est pas l'idée, mais entre autres, vous avez raison. Mais des fois, on part dans des directions, on ne sait pas où on arrive, mais on arrive quelque part.
Un des points importants, je le disais tout à l'heure en introduction, vous êtes l'une de nos pépites françaises industrielles et je crois qu'on peut vraiment utiliser ce mot-là. Et justement, vous allez vous développer encore plus à l'international. Vous êtes déjà présent dans de nombreux pays, mais votre ambition de demain, c'est d'être un géant français aux États-Unis. Une filiale est en train de se créer, de se développer. Je crois que vous réfléchissez même, que ce soit pour les États-Unis ou la Chine, à y installer des usines.
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des produits qui sont relativement... pondéreux.
Donc c'est-à-dire quoi, pondéreux?
Pondéreux, enfin, qui prennent de la place et donc pour lesquels l'impact transport est important. Donc c'est vrai que dans notre modèle, on est français, on démarre en France. Moi, si un jour nos ventes se développent aux États-Unis, je ne m'interdis pas d'avoir aux États-Unis une usine qui peigne nos produits pour économiser du transport, etc. Et tout. Même chose sur l'Asie. Et c'est vrai qu'on pourrait voir un jour usine Fairmob aux États-Unis, qui sait, ou sur la...
Non, on pourrait voir, c'est on verra, non ? Là, vous nous faites ça au conditionnel, mais ouais, vous êtes à peu près certain de vous quand même, non ?
En Chine, on a déjà démarré, on va renforcer. États-Unis, on est en train de commencer à chercher.
Voilà.
Est-ce que les sièges VIP de la cité interdite en Chine sont bien des sièges Fairmob ?
Ah oui, vous savez ça, exact.
Mais elle sait tout.
Ça, c'est fabuleux. Pensez que du cœur de la campagne française, dans l'Ain, on a livré des chaises.
Mais comment vous faites pour décrocher un
le carré VIP ? Ben, c'est avec notre partenaire chinois, puisqu'on a ouvert une boutique, notre première boutique Fairmob à Pékin il y a quelques années. On a décroché ce marché. Ça montre le respect et l'attachement des étrangers sur la culture française. Hein. Ce n'est pas du Fairmob qu'ils ont acheté. Ils ont acheté un petit bout de France.
Mmh. Bernard Hébier, chaque jour dans La France Bouge, on s'arrête sur une entreprise, une marque française qui a traversé les générations, résisté aux crises. Aujourd'hui, on avait envie de vous faire plaisir. Alors, on a choisi un jardin, l'un des plus beaux de France. C'est le domaine de Courson, au cœur de l'Essonne, en région parisienne.
Et lui aussi, il a traversé les générations depuis sa création en 1676. Et on part se balader en compagnie de Charlotte Barrican de l'équipe de La France Bouge.
Europe 1, La France Bouge, la saga.
Son parc est l'endroit rêvé pour les flâneurs. Imaginez un jardin de 20 hectares aux tons multicolores, plus de 3000 variétés d'arbres, des petits ponts fleuris, un véritable tableau romantique qui a traversé le temps et s'est refait plusieurs beautés, comme au XIXe siècle lorsque le duc de Padoue, propriétaire du château à l'époque, se lance dans un grand jardinage. Patricia de Nerveau, copropriétaire du château de Courson.
Il décide de se consacrer à l'embellissement du parc et du château. Pour le parc, il va concevoir un projet tout à fait nouveau. Le parc avait été très très endommagé pendant la Révolution et donc se pose à lui la question de savoir s'il le restaure ou s'il cède au goût du jour, qui est plutôt d'aller vers les parcs à l'anglaise, les parcs romantiques, les parcs paysagers. Et alors, étant donné qu'il était évidemment très très introduit dans le milieu impérial, il demande à Berthaud, qui était le paysagiste, un des paysagistes de l'impératrice Joséphine, de transformer le parc à la française en parc à l'anglaise.
Les travaux sont gigantesques. La terre est tournée, retournée. Des milliers d'arbres et des centaines de parterres de fleurs sont plantés. Les héritiers du duc de Padoue se succèdent. L'entretien du jardin reste une priorité. En 1860, il confie à deux frères paysagistes, les frères Böller, la tâche de réaliser ce que l'on considère aujourd'hui comme le cœur du parc.
Eux vont réaliser quelque chose de très important dans le parc, qui est l'étang, qui est vraiment un des attraits majeurs de ce parc et autour duquel, enfin sur les rives duquel, il y a énormément d'espèces d'arbres remarquables, puisque nous sommes considérés comme parc botanique avec plus de 300 espèces d'arbres différentes, mais nous sommes surtout un parc qui est apprécié pour son harmonie générale.
Le temps passe, le domaine change régulièrement de propriétaire, mais ils ont tous en commun cet amour des plantes. Ils n'hésitent pas à mettre les mains dans la terre et en 1982, ils invitent le public à partager cette passion.
Nous avons eu une idée, en fait, surtout ma belle-sœur d'ailleurs, de créer des journées des plantes qui ont fait notre célébrité pendant tout un temps. Ça a été une aventure extraordinaire. On a accueilli jusqu'à 220 pépiniéristes différents venant des quatre coins de la France. Certains venaient aussi de l'étranger, naturellement. Et ces spécialistes nous proposaient, si vous voulez, chacun dans leur domaine, des arbres exceptionnels.
Aujourd'hui, le domaine multiplie les activités pour trouver des sources de rentabilité afin d'entretenir les lieux. La crise du Covid, c'est bien sûr un énorme manque à gagner. Alors, il faut trouver d'autres idées. Les cours de PS des écoles du coin, par exemple, ont lieu en ce moment dans les jardins du domaine de Courson, au grand air.
Et je suis sûr qu'on a de plus en plus envie d'aller faire du sport quand c'est au beau milieu du jardin de Courson. Merci en tout cas à Charlotte Barrican pour cette super balade.
Pour nous accompagner aujourd'hui dans La France Bouge, Bernard Rébier, le PDG des meubles d'extérieur Fairmob. On vous garde à nos côtés jusqu'à 14h.
La France Bouge continue avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Europe 1, La France Bouge. Carole Ferry. Emmanuel Duteil.
Allez, on passe maintenant au trophée Europe 1, La France Bouge. Chaque jour, elle ou il tente de vous convaincre. Pour cela, ils viennent défendre leur dossier devant, attention, Nathalie Carré, un autre partenaire de la Chambre de commerce et d'industrie qui a toujours des chiffres. On se demande où elle va les chercher. Je suis sûr qu'encore aujourd'hui, ça doit être le cas. Et devant l'œil attentif de notre témoin du jour, en l'occurrence, aujourd'hui, Bernard Rébier, qui est le PDG des meubles d'extérieur Fairmob.
Bienvenue, Valentin Vauchel.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes notre jeune entrepreneur du jour. Vous avez 39 ans, vous avez lancé Éditez-nous en novembre dernier, une plateforme qui met en relation les écrivains et les éditeurs. Alors on sait à quel point la symbiose est souvent difficile. Est-ce que c'est vous qui avez trouvé la solution? Vous avez une minute pour nous convaincre.
Très bien. Quand on est auteur et qu'on vient de finir son manuscrit, c'est souvent très compliqué d'arriver à trouver l'éditeur à qui il faut l'envoyer. Ça peut être très coûteux aussi parce qu'on demande encore beaucoup aujourd'hui aux auteurs d'envoyer des manuscrits papier par la poste. C'est très long et c'est aussi très aléatoire parce qu'on ne sait pas ce que son manuscrit devient. Les auteurs ont peu ou pas de réponse parce que notamment les éditeurs sont débordés et reçoivent des milliers de manuscrits. Donc la plateforme a la vocation à simplifier les démarches des auteurs qui souhaitent présenter leurs manuscrits à des éditeurs et de permettre aux éditeurs d'utiliser la plateforme pour gagner du temps, un temps précieux qu'ils vont pouvoir consacrer à la lecture et à la découverte des livres. Comment ça marche? C'est très simple. Quand je suis auteur, je vais pouvoir déposer, présenter et décrire mon manuscrit, notamment à l'aide de catégories qui vont permettre à l'algorithme de l'adresser aux bons éditeurs.
Alors combien ça coûte? Parce qu'à chaque fois, nos invités oublient de donner le prix. Moi, on m'a dit que c'est 7,99€ pour l'auteur par mois.
C'est ça.
Et il arrête de payer au moment où son écrit a été acheté, j'imagine.
C'est exactement ça. On a conçu une offre d'abonnement qui se veut accessible et surtout qui laisse le choix total à l'auteur, puisqu'en fait, à partir du moment où il a signé avec un éditeur, il se désabonne. Et s'il met un petit peu plus de temps à trouver un éditeur, il est libre de choisir de rester.
Et aujourd'hui, vous avez une cinquantaine d'éditeurs parmi les plus grands noms?
Tout à fait, tout à fait. On a une cinquantaine d'éditeurs. On a les éditions de l'Archipel, notamment, avec qui on est très heureux de pouvoir vous annoncer qu'on a signé un contrat entre une auteure présente sur la plateforme et les éditions de l'Archipel. Donc, je remercie notamment Virginie Fuertes, qui est l'éditrice qui nous a rejoint très tôt dans l'histoire de la plateforme.
Et le livre sortira en septembre?
Il sortira au mois de septembre et il inaugure une nouvelle collection. Donc c'est absolument incroyable pour la plateforme.
Le nom du livre,
pour l'auteur. Alors le nom du livre, je ne peux pas le dire
parce
que le titre est encore confidentiel.
Okay. Alors comme chaque jour, Nathalie Carré, notre partenaire de CCI France, pointe les forces et les faiblesses des projets. Nathalie, qu'est-ce que vous pensez du projet de Valentin?
Trois points positifs tout d'abord. Environ 1% des manuscrits envoyés à des éditeurs sont publiés seulement. Et alors qu'environ 20% des Français déclarent avoir déjà écrit un ouvrage. Ça répond donc à un réel besoin. Deuxièmement, les services de relecture et de correction qui sont indispensables pour un auteur. Et puis le prix d'abonnement mensuel qui est très accessible. Un point amélioré et une suggestion. Le site a les informations essentielles, mais il manque de données qui rassurent, comme le taux de réussite, le nombre de mises en relation par mois en moyenne, par exemple. Idem pour les éditeurs, il faudrait leur donner des exemples d'ouvrages qui sont sur la plateforme pour les aider à choisir. Et puis une suggestion, vous pourriez peut-être créer une communauté des auteurs pour qu'ils puissent échanger entre eux et rompre la solitude.
Qu'est-ce que vous pensez des remarques de Nathalie, Valentin?
C'est des très bonnes idées. Alors la plateforme a à peine 4 mois, donc c'est vrai que tout ça est en train de se construire et de s'affiner. Sur la partie communauté des auteurs, on a déjà en projet effectivement de pouvoir proposer aux auteurs des contenus exclusifs aux auteurs abonnés qui leur permettront notamment d'échanger sur toutes les étapes de leur projet d'écriture, de la composition, donc la narration, le dialogue, les personnages, jusqu'aux notions juridiques, parce qu'on s'est rendu compte que les auteurs avaient assez peu d'informations sur les contrats et notamment le droit d'auteur, et ils ont vraiment besoin d'être accompagnés.
Mais c'est vrai que l'idée de ce que dit Nathalie Carré, de communauté, j'imagine avoir peut-être des réunions de lecture en commun, de CD, d'avoir les petits trucs, ça c'est quelque chose sur lequel vous voulez aller quand vous en aurez plus, d'être vraiment la rencontre du monde de ceux qui écrivent?
Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment accompagner la création de valeur à toutes les étapes du projet de l'auteur jusqu'à sa rencontre avec l'éditeur. Donc tout ce qui pourra aider les auteurs à se professionnaliser, à progresser et à trouver un éditeur pour ensuite, c'est le but ultime, accéder à un lectorat, on le fera.
Tous les auteurs peuvent être là. C'est-à-dire que si moi j'ai envie d'écrire un livre d'économie assez pointu qui pourrait n'intéresser que moi sur mes passions.
Ça vous coûtera juste 7 euros et quelques pendant tout le temps, vous ne trouverez pas d'éditeur.
Alors, mais
je suis sûr
que ça peut être passionnant.
On voit que Carole a beaucoup d'espoir en moi.
Il faut juste qu'on ait des éditeurs pour découvrir
Mais ce que je veux dire sérieusement, c'est que des romans ou ça peut être dans tous les domaines de l'écriture?
Non, aujourd'hui, on a des catégories qui sont ouvertes à la fois en non-fiction et en fiction.
Mais vous avez quand même pas mal d'éditeurs, on l'a dit, qui ont accepté de participer. Oui. Ça veut dire qu'ils trouvent quand même quelque chose dans votre démarche. Ils se disent « Ah oui, ça va peut-être nous simplifier le travail ».
Oui, tout à fait. Déjà parce que l'acquisition reste au cœur du métier d'éditeur. Ça reste un des fondements de ce métier, aller chercher des nouveaux talents. Et puis parce que l'ergonomie de la plateforme et l'ensemble des fonctionnalités leur permettent d'aller vite pour identifier les talents et en tout cas leurs recherches.
Bernard Rébier, je rappelle que vous êtes le patron de Fermob, spécialiste du mobilier de jardin, entrepreneur. Je crois que vous aussi, hein, vous aviez même lancé déjà un projet de mise en relation, cette fois des designers et des fabricants de meubles. On va y revenir. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette opération?
Alors, je trouve ça génial. C'est toujours enthousiasmant de voir de nouvelles idées. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que ça libère les écrivains d'un métier pour lequel ils ne sont pas faits, c'est rechercher des éditeurs. Et j'imagine l'angoisse que ça doit enlever à tous ces néo-écrivains. Et puis du côté de l'éditeur, bah effectivement, ça organise, ça simplifie, ça oriente. Et puis je crois savoir qu'il y a eu... Toutes les maisons d'édition ont le regret de leur vie en ayant refusé un manuscrit, etc. Je ne dis pas de bêtises, Marcel Proust, il s'est fait refuser par un éditeur à la recherche du temps perdu. Donc, non, mais surtout, ça libère l'écrivain et je trouve que c'est un
service... Sans en arriver à Marcel Proust, un J.K. Rowling se fait recaler de quasiment toutes les maisons d'édition.
Stephen King, ouais. Stephen King, son premier roman a été refusé 30 fois quand même.
Voilà. Donc, je trouve que c'est un service rendu à la littérature. Et moi, je trouve que mettre la modernité au service d'un domaine fabuleux qui est la littérature, bah moi, je trouve ça fantastique, je trouve ça génial.
Et vous faites ça, vous, du coup, avec les designers aussi? Je crois que vous nous avez dit que Philip Stark, comme ça, a été découvert ou en tout cas a été aidé par vous aussi.
Alors, je préside aux destinées d'un organisme qui dépend de l'ameublement français, qui s'appelle VIA, Valorisation de l'innovation dans l'ameublement. Et nous sommes une interface entre les designers et les éditeurs et fabricants de mobilier. Et on a commencé il y a 40 ans. À l'époque, Philip Stark, Jean-Michel Villemotte étaient jeunes. Après, il y a eu l'époque des Patrick Join. Donc, on continue ce métier. On organise dans quelques mois un speed dating où on va générer 1500 rendez-vous entre des designers d'un côté et des fabricants éditeurs de l'autre.
Bah voilà une idée.
C'est un peu le même métier que Valentin.
Merci Valentin Vauchel. Vous êtes donc cofondateur d'Edith et nous. Hein, c'est un jeu de mots puisque c'est Edith, le prénom, et nous. Et merci d'être venu nous présenter votre projet.
Et surtout
merci
vous donner de vos nouvelles, puisqu'on aime bien comme ça savoir ce que deviennent tous ceux qui viennent nous présenter leurs si jolis projets. Nathalie Carré, on vous retrouve dès lundi. Et si vous aussi, d'ici là, vous avez un projet comme ça que vous avez envie de nous présenter, bien une seule adresse mail. Cette adresse mail, c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr. Et vous aurez peut-être comme ça la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 La France Bouge.
Bernard Rébier, nous vous gardons encore un petit peu avec nous. Vous êtes le PDG de Fermob. C'est vous qui nous accompagnez aujourd'hui. Désolé, c'est bientôt la fin de l'émission. Ça fatigue la fin de la semaine. Tout au long de La France Bouge aujourd'hui.
Europe 1, La France Bouge. Carole Ferry, Emmanuel Dutheil.
La France Bouge, c'est déjà la dernière partie de votre émission aujourd'hui avec notre grand témoin, le PDG de Fermob, Bernard Rébier.
Et comme chaque vendredi, nous accueillons une entreprise qui recrute. C'est demain un emploi. Raphaël Le Vulierme, bonjour.
Bonjour, la France Bouge.
vous êtes bon, ça commence bien déjà.
Vous êtes le cofondateur de Luco, une assurance habitation créée il y a 3 ans, 100% en ligne. Et vous recherchez donc une centaine de postes, c'est ça? Pour quel type d'emploi?
Exactement, on recrute une centaine de postes sur deux pôles particuliers, la technologie, donc des développeurs, des data scientists, et le deuxième pôle, c'est surtout ce qui est les métiers plus de l'assurance et du logement, donc des gestionnaires de sinistres, des experts en assurance et des réparateurs, plombiers, serruriers, peintres, dans absolument toute la France.
Et les profils principaux que vous recherchez, c'est jeunes diplômés, je crois que la moyenne d'âge est de 27 ans, des profils aussi plus expérimentés pour certains postes comme les gestionnaires de sinistres.
Exactement. Donc on recrute 100 personnes et on recrute vraiment tous les profils du jeune diplômé. On a aussi quelques stagiaires à des personnes qui ont 10-15 ans d'expérience.
Mais quelqu'un qui n'a pas trop de diplôme mais qui est passionné, qui se dit que l'assurance habitation c'est le rêve de sa vie. Vous le formez ?
On le forme. On a notamment tout ce qui est service client. On a énormément de jeunes qui ont peu ou pas de diplôme mais qu'on forme. Et la seule chose qu'on cherche, c'est une passion du client. Une vraie volonté d'aider les particuliers. L'assurance n'est pas toujours bien vue, généralement à raison, parce que on prend pas vraiment soin du client dans l'assurance. Chez Luco, on a une vraie passion pour aider le particulier quand il a un problème. Et donc, c'est ce qu'on cherche avant tout dans les jeunes recrues qu'on...
Donc, quelqu'un, un peu d'humanité, c'est important. La personnalité, c'est important.
Beaucoup d'humanité.
Et il faut parler impérativement anglais.
C'est en effet très important, on est une société européenne, donc aujourd'hui on est le numéro 1 en Europe de la néo-assurance, ou l'assurance nouvelle génération, et on travaille énormément en anglais, on a des profils de toute l'Europe, donc l'anglais est un élément très important chez Luco.
Et c'est d'autant plus important, et c'est peut-être un point qu'on aurait dû signaler, vous êtes basé à Paris, vous cherchez donc des emplois à Paris, mais dans toute la France, mais aussi je crois en Europe, on peut être basé, alors j'espère que je ne vais pas dire d'Alrée, en Espagne, en Allemagne et en Angleterre.
Exactement, donc on a énormément de personnes qui travaillent en 100% télétravail. On a des bureaux, mais on a à peu près 40% des effectifs qui sont en 100% télétravail dans toute la France, à Nantes, à Bordeaux, dans des plus petits villages, en Angleterre, en Allemagne, un peu partout. Mmh. Et donc on est finalement très ouvert, il n'y a pas besoin d'être parisien ou d'habiter en région parisienne pour rejoindre Luco. Mmh.
Alors vous dites qu'il faut être aligné avec la mission de Luco, c'est rendre les foyers plus sûrs. Et plus vert, ça c'est capital, mais ça se détermine pas vraiment au démarrage quand on postule chez vous quand même. Comment vous créez cette ambiance d'entreprise ?
On a quelques entretiens, on va tester chez le candidat justement à quel point il postule pour la mission de Luco. Par exemple, chacun des salariés de Luco fait du service client. Donc, même si vous êtes un développeur ou même si vous êtes un designer, peu importe, vous allez faire du service client au moins une fois par mois. Pour vraiment comprendre quel est notre but, qu'est-ce qu'on apporte.
Une fois par mois, chaque mois où on est dans l'entreprise ?
Non, si vous êtes...
Quand on est recruté ?
Non, tous les mois, une fois que vous êtes dans l'entreprise, toute la vie. Moi, je fais plusieurs fois de service client par
semaine. Et on est bien payé chez Luco ?
On est bien payé chez Luco.
Il paraît que c'est important quand même. Hein.
On est très bien payé chez Luco. On est globalement mieux disant que le marché. Mmh. Et surtout, chaque salarié de Luco a des parts dans la société.
Vous recrutez en distanciel en ce moment ?
On recrute en distanciel. On a 60 personnes qui nous ont rejoints en 2020 et 80% de ces personnes nous ont rejoints en distanciel.
Bernard Rébier, vous êtes donc PDG de Fermob. Est-ce que vous recrutez, vous aussi, en ce moment ?
Oui, parce que nous avons la chance de continuer à nous développer. Nous recrutons alors des postes orientation industrielle, puisqu'on est des fabricants. Moi, je cherche des opérateurs qualifiés en soudure robot pour notre site d'Anneyron au sud de Lyon, des chefs d'équipe, parce que comment on se développe pour encadrer ces gens-là, des techniciens qualité aussi sur Toissé ou Anneyron. Pour tous ces postes, on n'a pas besoin de parler anglais. Par contre, on veut renforcer l'équipe de vente avec des responsables vente directe de réseau grand public, sur Paris aussi, dans nos magasins. On recherche des conseillers de vente confirmés. Et pour ça, alors si je peux me permettre, info@fermob.com ou la rubrique « Nous rejoindre » sur notre site.
Eh bien, permettez-vous, parce que c'est important. Oui.
Ce qui est intéressant, ce qu'on vient d'entendre aussi avec Raphaël Vulliam de chez Luco, c'est les valeurs d'entreprise. Oui. Et je crois que vous en avez fait aussi un fer de lance chez vous. C'est important. Quand on arrive, je crois, au siège social de votre entreprise à Fermob, on voit des petites phrases. Alors, vous nous en avez emmené quelques-unes, ça me facilite la vie pour les connaître. La logique vous conduit d'un point A à un point B. L'imagination vous emmène partout. Moi, j'ai adoré. C'est d'Einstein. On peut aussi trouver ce qu'on cherche, c'est facile. Trouver ce qu'on ne cherche pas, c'est beau.
Voilà, la beauté, le sens de l'esthétique fait partie de nos valeurs. Elles sont sur le mur de l'entrée. Puis avec un grand mot que j'aime beaucoup, c'est « merci ». Parce que des gens qui viennent chez nous, je trouve qu'on a déjà le devoir de les remercier. C'est comme pour les clients.
Raphaël Vulliam, est-ce que vous pourriez nous donner aussi le site sur lequel on peut postuler pour vos emplois ?
Bien sûr, sur luco.eu, il y a une rubrique « talent » en bas du site.
Merci beaucoup, Raphaël Vulliam.
Un grand merci effectivement à vous, un grand merci également à Bernard Rébier, le président directeur général de Fermob, de nous avoir accompagnés pendant toute cette heure sur Europe.
Emmanuel, vous retrouvez lundi Elisabeth Assayag en pleine forme, j'en suis sûr.
J'en suis sûr, on sera effectivement avec Elisabeth et on va parler du bio lundi, de plus en plus de bio bien évidemment dans les rayons des supermarchés. On sera avec l'un des leaders en France de ce secteur, c'est la maison mère des produits Björg Bonneterre, je suis sûr que vous les connaissez et il sera donc à cette même place lundi pour La France Bouge.
C'était un plaisir de passer cette semaine avec vous. Dans
plaisir
un instant,
partagé.
La Flash suivi de Christophe Ondelatte.
C'était La France Bouge avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Europe 1. Écoutez le monde changer.